la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis au CACL lors du vernissage de l'exposition qui s'intitule Intelligence ambiante, au pluriel, au CACN, dans le quartier de Pizzevin qui fait tant parler. Et c'est important qu'il y ait une vie culturelle dans ce quartier. Et je suis avec Samir Moukas, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, donc deux fois, Samir Moukas, ça fait trois fois. Cette exposition donc démarre aujourd'hui, le 16 septembre, et dure jusqu'au 24 février 2024. Et je vous conseille bien sûr vivement de venir la voir. Et nous en reparlerons peut-être avec Bertrand Rioux, le directeur du CACN. Mais là, nous avons la chance d'avoir l'artiste. Alors bonjour Samir.
Bonjour.
Vous connaissiez Nîmes ?
Très peu.
Très peu.
J'étais simplement venu en visite de repérage lors de l'exposition de Léo Fourdrinier, de Masaccio et de Rouilal.
Ouais.
Voilà, pour voilà, discuter avec Bertrand et m'imprégner du centre d'art.
Ouais. Et je les avais rencontrés, ces trois artistes, puisqu'il y a un couple et puis Léo, donc je suis la brillante carrière là, qui
d'accord,
est partout. Donc je vous le souhaite aussi à vous.
Je vous remercie.
Alors votre parcours, Samir ? Toujours dans l'art, dès le début, vous avez voulu être dans l'art. Vous êtes
Non. Mon parcours, c'est le parcours d'un adolescent des années 90 dans une ville moyenne, un peu chiante du Grand Ouest français, quoi. Voilà. J'ai commencé par faire du graffiti. Je me suis vite rendu compte que ce qui me plaisait dans le graffiti, c'était pas tant le fait En fait, ce qui me plaisait dans le graffiti, c'était tout ce côté exploratoire de zones urbaines en friche, mmh. Et puis aussi cet aspect de recherche de forme, en fait. Voilà.
Donc complètement autodidacte.
Complètement autodidacte.
Vous avez vécu donc dans l'art de la rue. Vous appelez ça graffiti. Vous avez pas.
Street art. Non, à mon époque, on appelait ça du graffiti.
C'est pas si vieux.
Du graffiti, des tags, du graph.
Ouais.
Voilà.
Vous faisiez ça avec des copains.
Non, avec des copains, tout seul.
Vous aviez une signature, non?
Oui, mais ça on va pas en parler parce que ça date. C'est
long. Le passé, ça.
C'est le passé, ouais. Et puis je me suis retrouvé à aller au Beaux-Arts, en fait. Au Beaux-Arts de Quimper, où d'ailleurs j'enseigne maintenant, ce qui est étonnant, mais c'est comme ça.
C'est ça la vie, le parcours d'une vie.
Ouais. Et puis en arrivant au Beaux-Arts, en fait, j'ai eu accès à toute une culture visuelle, esthétique, philosophique, qui m'avait vraiment échappé, étant quelqu'un qui s'imprègne très facilement de phénomènes pop, on va dire, issus de culture populaire. Et ça a très 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 bien marché sur moi. Et je me suis tout de suite impliqué, investi, rendu très curieux de cet univers. Et donc, tout ce que je mettais dans le graffiti s'est peu à peu transformé au contact de matériaux et de techniques, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui.
Alors, au Beaux-Arts de Quimper, vous avez fait un cursus normal ?
Oui, j'ai fait le DNAP, le DENSEP, que j'ai tous deux eu avec les félicitations. Mmh. Ensuite, je suis allé faire un post-diplôme aux Pays-Bas. Mmh. Et puis, petit à petit, ma vie d'artiste a commencé. D'abord à Bruxelles, puis à Rennes, ensuite à Paris, de nouveau à Rennes, puis à Paris. Voilà, un parcours jalonné d'expositions personnelles, d'expositions collectives, de résidences, de plusieurs ateliers. Jusqu'à la rencontre avec ma galerie en 2016, la galerie Éric Mouchet à Paris, avec qui je collabore d'ailleurs, et dont le deuxième acte de l'expo du CACN va se jouer au mois d'avril 2024, en leur
lieu. C'est-à-dire en leur lieu. Ah d'accord, voilà. Vous irez, votre exposition ira après donc dans...
Certaines œuvres de l'exposition vont se retrouver à la galerie, dans une configuration un peu différente.
Oui, alors certaines œuvres, parce que... Il y a des œuvres de 2011 à 2023.
C'est
avec
ça.
Bertrand Rioux, vous avez bien sûr étudié, réfléchi, d'abord d'après le lieu, puis après en discutant, vous disant bon, on va mettre des œuvres récentes, mais ça serait bien aussi d'en mettre des anciennes, comme pour montrer un processus, comme pour montrer une évolution.
Non, moi ça m'intéresse pas ça. Je trouve ça trop didactique. Il y avait un projet précis autour de qui s'appelle Intelligence ambiante, justement, quelque chose de très spéculatif, qui est ce que j'aime faire en fait. Mon travail, je l'appelle de la sculpture spéculative, voilà, où j'essaye d'interpréter, en combinant des signes, une réalité à venir qui adviendra ou pas. Mmh. Un petit peu comme un écrivain de science-fiction décrypte des choses dans le présent pour anticiper des usages ou des choses à venir. Mmh. Voilà. Ceci dit, un certain nombre d'œuvres de mon catalogue pouvaient très bien se connecter et faire écho avec ce projet d'intelligence ambiante, avec les sculptures qui sont des prototypes de distributeurs alimentaires. Dans une généalogie, dans une genèse, dans un parcours de travail, de recherche, de fabrication avec les matériaux à mon atelier, des œuvres ont pu se greffer à ce propos-là. D'accord. Et donner donc cette expo.
Alors, j'ai pas du tout, quand j'ai vu pour la première fois, j'ai pas du tout pensé à des distributeurs alimentaires, parce que je trouve, déjà, il y a les couleurs qui nous interpellent énormément. Une couleur par salle, pratiquement, et c'est toujours dans ce labyrinthe. Vous, vous appelez alcôve, moi je vous dis le labyrinthe du CACN. On a des angles de vue très, très intéressants. Moi, je pensais plutôt à des machines, je pensais plutôt à des bâtiments industriels. Enfin, chacun voit ce qu'il veut.
Chacun voit ce qu'il veut, parce que moi, c'est vraiment pas mon job de mettre des choses dans la tête des gens. Par contre, ce qui est mon job, c'est d'essayer justement à l'atelier, de manière intuitive, ouvert le plus possible à une forme de sérendipité, mais tout en ayant quand même auparavant imprégné mon imaginaire, mon cogito émotionnel de toutes sortes de choses, pour réussir à assembler des objets à partir de mes intuitions.
Ouais.
Donc c'est vrai que dans mes objets, il y a une charge, mais la charge que moi je mets, je ne sais pas comment les gens, eux, vont la recevoir. Et ça ne m'appartient plus d'ailleurs.
Eh oui, mais c'est ça l'art en fait.
Bien sûr,
qui parle à chacun.
L'art, c'est un langage.
C'est un langage. Et j'insiste, tout est fait en matériaux pauvres. Hein, donc il y a toujours, comme beaucoup d'artistes que Bertrand reçoit ici au CACN, une volonté éthique, une volonté écologique.
Non, il n'y a pas ça chez moi.
Il n'y a pas ça chez
moi. Moi, j'ai pas de volonté. Non, c'est pas ça. Mais j'ai pas de volonté écologique. Parce que je considère tout simplement que, à mon échelle,
ça n'a pas d'influence.
Non, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire.
Ah,
comme tout le monde, je recycle.
Bah, c'est honnête.
Je trie mes ordures. J'achète de plus en plus des vêtements de seconde main, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, moi j'aime travailler avec de la résine, j'aime travailler avec du polystyrène, j'aime travailler avec de la fibre de verre. Et c'est des matériaux qui, au moment où ils sortent des usines qui les fabriquent, ont déjà pollué pour 10 usagers à venir, vous voyez, un peu comme les voitures.
Ouais. Donc,
dis ça parce que, étant enseignant en beaux-arts, je suis beaucoup confronté à des étudiants, à des étudiantes, à des jeunes gens, voilà, qui veulent revendiquer tous ces nouveaux items autour de l'écologie, et ils ont tout à fait raison de le faire, mais ils le font avec une forme de naïveté qui fait qu'en fait, la plupart des choses qu'ils utilisent, enfin, ils ne se rendent pas compte qu'en fait,
oui, faut pas casser non plus
le mal est déjà fait.
Il ne faut pas casser non plus leur...
Bien sûr que non. Et c'est pas ce que je fais.
Ouais.
C'est pas ce que je fais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses, et j'emploie les matériaux qu'il faut pour le faire. C'est vrai que pour cette exposition, j'ai cherché à travailler avec des résines bio.
Mais pourquoi pauvres alors? En quoi ils sont pauvres, ces matériaux?
Ah, parce que c'est...
Ils sont pas chers?
C'est du carton, c'est du polystyrène. Voilà.
Ah,
là, dans ce qu'il y a dans l'exposition, il y a beaucoup de choses qui sont des matériaux mous qui durcissent, qu'on achète en grande quantité, qui sont issus d'une industrie pétrochimique de base, ou qui en sont les résidus.
Mmh.
Voilà. Ce ne sont pas... Je ne propose pas des bronzes, je ne propose pas des fontes, je ne propose pas de la pierre taillée.
Mmh.
C'est pas non plus du bois... C'est pas non plus du bois qui aurait été travaillé.
Mmh.
C'est vraiment des matériaux qui permettent d'être mis en forme en quelques gestes.
Et ça, la céramique, parce que vous fabriquez tout vous-même.
Oui.
Hein, donc vous êtes polyvalent. Vous l'avez appris ça à l'école ou
Non, j'ai rencontré la céramique dans mon parcours il y a assez peu de temps.
Mmh.
En fait, c'est quand j'ai commencé à enseigner. J'ai vu des choses dans l'atelier de céramique. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce médium, avec toutes les techniques qui y sont liées, pouvait me permettre de prolonger certaines interrogations, notamment autour du moulage, mais en terre. Et la terre, c'est quelque chose qui cuit fort, qui cuit haut. On peut émailler, on peut faire de la chimie avec les émaux, on peut faire des expériences. Mmh. Et comme moi, je suis quelqu'un de très expérimental, je suis tout de suite tombé dedans, en fait. Voilà, ouais. Tout simplement.
Ça me fait penser à Léo Foudrinier, dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui expérimente beaucoup. Donc, vous mettez les mains dans la pâte, hein, c'est ça.
Ah, toujours.
Et qu'est-ce que la céramique vous a apporté de plus que la peinture, que le polystyrène?
Ce que m'apporte la céramique, c'est que... c'est quelque chose qui est extrêmement malléable sur un temps quand même relativement long.
Qu'est-ce que vous appelez un temps relativement long?
Dans les formes qu'on voit au CACN, en gros, il y a une semaine, 10 jours de travail pour faire une pièce.
Oui, donc vous avez le temps de remanier,
ouais,
de structurer. Vous savez...
C'est pas comme la résine.
Ouais.
On mélange de la résine, il y a un temps de prise, et puis au-delà du temps de prise, ça y est, c'est pris, quoi. On peut
donc
plus rien faire.
Vous avez plus de surprises, plus de mystère avec la céramique, plus de repentir, plus
ouais,
de retouches.
Ouais. En fait, c'est aussi ce dont je parle beaucoup à mes étudiants. Quand on bosse avec des matériaux, il y a un temps de travail, il y a des intensités de gestes qui sont possibles selon ce que l'on a entre les mains. Et par exemple, ce qu'offre la céramique, c'est tout à fait différent de ce qu'offre une planche de bois ou de ce qu'offre un moule en silicone dans lequel on coule un mélange de résine acrylique. C'est tout à fait différent.
Bien sûr, ouais.
Et toutes ces choses-là, je pense, c'est important de les connaître pour pouvoir trouver la bonne vitesse de pensée, la bonne vitesse de geste selon ce qu'on a envie de faire. Ouais.
Donc c'est ce que vous enseignez à vos étudiants?
C'est ce que j'enseigne à mes étudiants, mais c'est surtout ce que je fais à mon atelier.
Ouais.
J'essaie d'avoir le plus de cordes possible à mon arc. Histoire de pouvoir, entre guillemets, comme un médecin, traiter tous les problèmes, c'est-à-dire adresser tous mes désirs de forme au travers d'une gamme de matériaux la plus vaste possible.
Ne pas vous ennuyer non plus, toujours.
Ne pas m'ennuyer.
Recherche. Enfin, je ne pense pas que vous vous ennuyez, mais la volonté de chercher. C'est vrai que c'est dans la disposition CACN, on ne va pas faire la liste de toutes les œuvres, il y en a 87. Hein,
Non.
Pourquoi? Non. C'est numéroté 87.
Non, ça, ce sont les dimensions d'une œuvre. Il y en a 18.
Je mets mes lunettes, pardon,
oui, oui.
18.
Ouais.
Oui, ça va mieux quand...
Vous m'avez fait peur, j'étais là. Oh, 87 œuvres. Il m'aurait fallu 2 ans de plus.
Bon, alors là, j'ai mis mes lunettes. Donc, il y a en effet les titres, il y a les dimensions. Et donc, il y a 18 œuvres. Mais c'est très dense dans ces différentes alcôves. Et comment vous les avez... Donc, on en a parlé déjà un petit peu... Comment vous les avez disposés, puisque ce n'est pas évolutif, ce n'est pas chronologique? Parce que le spectateur, il peut aller là où il veut. Hein.
Oui.
Il n'y a pas un ordre établi. Moi, j'aime bien d'ailleurs aller le refaire plusieurs fois dans un sens différent. Qu'est-ce que vous sollicitez chez le regardeur?
Vous savez... Par rapport à la mise en place?
Ouais.
Alors, la mise en place d'une exposition, c'est toujours assez complexe parce qu'on fait des projections, on fait des plans, puis on...
Il y a la réalité.
On est dans le lieu d'expo, on déballe les œuvres, on commence à tout placer. Et là, il faut savoir que l'exposition dans laquelle vous êtes, c'est pas un truc qui est arrivé de soi.
Ouais.
Y a des choses qui étaient assez claires dès le départ, notamment que ces fameuses alcôves soient occupées par le papier peint, intelligence ambiante et les sculptures en forme de distributeurs de nourriture. Et le reste, ça a beaucoup changé, en fin de compte.
Je vous interromps parce que c'est vrai, ça m'a tout de suite frappé, ce papier peint, deux gris différents, puisque en général, le CACN, le fond est toujours blanc.
Oui.
Donc, ce papier peint, c'est le nom de l'exposition.
Ouais, c'est ça.
C'est comme un chemin, c'est comme un balisage aussi.
Mais c'est aussi, ce papier peint, il est là pour matérialiser un espace virtuel, le faire apparaître dans notre réalité. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je reçois une palette avec des belles impressions offset bien emballées. Et puis, quand on les colle au mur, elle révèle les aspérités qui sont déjà présentes.
D'accord.
Et les aspérités du mur requalifient le papier peint et en font une sorte de phénomène visuel qui a une texture que je n'avais pas prévue. Ça, c'est super intéressant.
Oui, chaque exposition, pour vous, est une découverte et une relecture de vos œuvres. Pas vraiment.
Si, on peut le dire, parce que là, par exemple, les œuvres plus anciennes sont accrochées dans une sorte de mélange, une sorte de cohabitation. Et là, en effet, on assiste à une sorte de relecture par le curating qui a été mené par Bertrand Rioux, Guilhem Monceau et moi-même, dans la préparation, c'est ça. Et ça, c'est un travail qui est aussi très très chouette. C'est comme du montage, mais à l'échelle d'un espace avec des objets physiques.
Et puis les perspectives, au CACN, c'est assez petit, mais il y a des angles de vue très très intéressants. Et justement, il n'y a pas trop d'œuvres, on n'est pas submergé. Alors, on n'a pas parlé de... On a parlé de beaucoup de choses, mais pas de tout. On en reviendra donc à la peinture. Mais bon, donc, il n'y a pas de but écologique, mais vous avez choisi un morceau de musique qui s'appelle Pollution. Alors, il y a une contradiction, là.
Écoutez, c'est en fait... ce musicien dont je vous parle, là, James Ferraro, donc, c'est un musicien américain qui est vraiment dans quelque chose de très expérimental, de très avant-gardiste. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui décrit avec une sorte de mélancolie noise, un peu, les paysages urbains de Los Angeles, et surtout l'expérience humaine au XXIe siècle, dans ces espèces de méga-villes et ces environnements très consuméristes. Et... par exemple, dans l'exposition, il y a deux œuvres qui s'appellent « Human Experience » et « Emoji Designer ». « Human Experience
ouais. ».
Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Toutes les créations culturelles qui essaient d'offrir un reflet sensible de ce qu'est l'expérience, tout simplement, de la vie dans le monde dans lequel on existe aujourd'hui. Et c'est vraiment très varié, mais ça peut être très difficile aussi.
Mm.
Quand je suis sorti du bus aujourd'hui pour venir à Pisevin, j'ai bien compris.
Ouais.
Voilà. C'est, voilà.
Ben, j'étais pas venue, moi, à Pisevin depuis la démolition de la tour Pollux. C'est vrai que quand on arrive et qu'on voit ces destructions, qu'on voit ces palissades, bon, dans le contexte actuel, c'est prenant. Hein.
On est dans un monde très chaud, dans un monde très sec, surtout à Nîmes.
Mmh.
Voilà. On est dans une époque où le prix des ressources, des matériaux flambe, des choses se raréfient. Voilà, on sait qu'on est sur quelque chose qui se cristallise de plus en plus vers une difficulté à vivre au quotidien, à de nombreuses reprises. À de nombreux endroits.
Sans parler de la violence. Mais qui est là.
La violence physique réelle, mais aussi...
La violence mentale.
La violence politique. La violence algorithmique, dont mon exposition parle en demi-teinte. Voilà. Parce que maintenant, de plus en plus, des décisions sont prises pour nous selon l'évaluation de la manière dont les gens consomment. Donc c'est vraiment des approximations.
On nous incite à consommer de cette façon.
Oui, bien entendu. Ouais. Et donc, on est à la fois incité à être des acteurs de notre propre vie, tout en sachant qu'on est monitoré et que ce qui est à l'autre bout du tunnel, c'est juste des suggestions qui sont faites avec ce que l'on a fait avant d'entrer dans le tunnel. Il y a un truc un peu... C'est un peu un jeu de dupes, quoi. Ouais.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons la visite de l'exposition Intelligence Ambiante, au pluriel, au CACN, qui dure donc jusqu'au 24 février 2024, avec Samir Mougas, qui avait choisi donc un titre qui s'appelle Pollution. Et on va revenir, si vous voulez bien, Samir, maintenant, plus spécifiquement à certaines heures. Je pense que nos auditeurs perçoivent un petit peu le cheminement dans cette exposition. Peut-être ça peut s'empiéter un peu plus sur certaines œuvres. Et comme je vous disais au début, les couleurs. Pourquoi ces distributeurs de nourriture sont d'une seule couleur et toujours très, très agressives? Peut-être moins le violet, mais le orange, le vert.
C'est des couleurs que moi, je trouve belles. Et la mise en couleur, elle a été choisie par rapport au statut un peu particulier de ces sculptures. Parce que ce sont des sculptures, elles ont été fabriquées comme des sculptures,
oui, elles sont
à l'intuition,
plaquées au mur, mais elles
avec
sont...
de la sérendipité, mais en faisant ces sculptures, je voulais réaliser des prototypes.
D'accord.
Des prototypes de distributeurs de nourriture. Mais ces distributeurs de nourriture, ils n'existent pas. C'est un peu comme si j'avais essayé d'extraire des choses d'un rêve.
Ouais.
Donc, comment les incarner dans le réel ?
C'est pour ça qu'il y a des tuyaux. Mais est-ce qu'on peut deviner à quelle nourriture vous pensiez ? C'est une nourriture...
Non, ça m'appartient pas. C'est à chacun de le décider. Et en fait, moi j'avoue que je me fiche même de savoir si les gens y voient des distributeurs de nourriture.
Ah, moi je les ai pas vus. Hein,
les titres suggèrent un petit peu ça, pour ceux qui parlent anglais.
J'avais pas vu les titres. Moi j'aime bien faire une première visite sans avoir les titres pour pas être influencé. Parfois, il y a d'ailleurs des artistes qui ne veulent pas de titre. Hein.
C'est ça, c'est vrai. Ouais.
C'est peut-être encore mieux. Donc voilà, il faut venir voir. Sans a priori, sans idée, se laisser porter donc par ces couleurs.
Mais pour terminer, pour vous répondre sur la couleur, les couleurs ont été choisies parce que comme je vous disais que ces objets étaient des prototypes un petit peu extraits d'un rêve, quelle est leur couleur ? Ils n'en ont pas vraiment en fait.
Non.
Et donc il fallait quelque chose qui ne les caractérise pas trop dans le réel. C'est pour ça qu'elles sont unies et monochromes, avec des teintes qui me plaisent. J'adore les couleurs fluo, j'en mets dans toutes mes peintures.
Le graffiti de vos débuts, ça.
C'est possible que ce soit le graffiti de mes débuts, mais c'est aussi un rapport au monde. C'est aussi un rapport au monde.
Mais le distributeur vert foncé, pour moi, vous voyez, j'ai vu un fauteuil. Vous savez, ces grands fauteuils en cuir anglais. Ça donne, et c'est marrant parce que c'est peut-être le seul qui est attirant. On aurait envie de l'embrasser.
Les formes sont
rondes.
Plutôt rondes et douces. Oui.
Ouais. Donc vous voyez, chacun un peu...
Là, par exemple, ce distributeur, il existe parce qu'il a démarré par l'achat d'un coffre de toit, ce qu'on met sur les voitures pour partir en vacances. J'étais un peu obsédé par ça à un moment, par ces objets-là. Des coques en plastique qui servent juste à transporter des objets. Vraiment le truc typique de notre société actuelle qui sert à rien, en gros. Mais qu'on vend quand même, juste pour vendre du plastique. Mais par contre, en termes de design, j'ai vu des choses intéressantes. Et donc, je me suis procuré ce coffre de toit et je m'en suis servi comme base pour composer toute la sculpture. Même s'il est fortement dénaturé, il est encore là, dedans.
Oui, ça, je ne l'ai pas vu. Alors, ensuite, les céramiques, on en a parlé. Alors, je voudrais qu'on revienne à cette salle, qui, je ne sais pas si elle a un nom, où il y a les deux moulages là, en silicone et puis après aux peintures. Parce que j'ai trouvé que vous parliez qu'il n'y a pas de chronologie, mais est-ce que ces peintures murales, avec ces rondes, ces fortes couleurs là aussi, c'est plus ancien ?
Ça, c'est assez récent en fin de compte, c'est une série de 2021.
Oui.
J'ai...
Alors, vous passiez du polystyrène, de la résine à la peinture ?
Ces peintures sont arrivées après avoir montré ma toute première exposition avec uniquement de la céramique à la galerie Éric Mouchet. J'ai eu besoin d'un temps de pause et ce qui est sorti à ce moment-là, ce sont ces peintures. Avec un protocole assez précis pour les réaliser, toujours le même.
C'est plus facile donc ?
Pas plus facile.
Je ne sais pas si vous aimez ce mot. C'est pas plus facile ?
Non, c'est pas plus facile. Au contraire.
On a l'impression pourtant.
C'est des peintures qui sont très techniques.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de masquage, beaucoup de scotch, beaucoup de mélange de teintes. Et ces peintures ont la particularité justement de ne pas présenter de repentir possible. C'est un peu comme mon travail de sculpture.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Quand la résine est prise, elle est prise. Là, avec ces peintures, quand une couche est posée, elle est posée, je reviens pas dessus. Je peux faire une petite retouche s'il y a une goutte qui tombe au mauvais endroit, mais c'est tout.
C'est tout,
oui. Ouais.
Est-ce que vous appelez ça de l'abstrait ? Est-ce que vous appelez ça du géométrique ? Est-ce que vous appelez ça comment ?
C'est manifestement de la peinture abstraite, mais on pourrait aussi dire que c'est de la peinture figurative avec quelqu'un qui aurait vraiment une très mauvaise vision et des filtres émotionnels assez pauvres.
Ah oui, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai vu ce côté... ce qui est très marquant, c'est la répétition. Donc c'est vrai, quand on a un problème de vue, ce côté répétitif où les feux, vous savez, la nuit, les feux tricolores qui se multiplient, c'est intéressant. Et on va finir avec... je vous le montre sur le papier pour nous dire.
Les objets en résine.
Les objets en résine. Celui qui est en face, là, sur votre papier peint.
Ouais. Alors, les objets en résine, c'est typique de mon travail, en fait. J'ai inventé tout le process pour les réaliser avec un système de moulage expérimental, en faisant l'usage d'un fil chaud sur du polystyrène. en stratifiant des couches et des couches de résine polyester avec un glaçage époxy en dernier lieu pour donner ce brillant et cette couleur noire. Et la série s'appelle Human Experience Emoji Designer, voilà, parce que j'ai eu envie de réaliser des émoticônes, c'est-à-dire d'ajouter à mon langage artistique la dimension justement très communicative de ces petits objets symboliques que l'on met dans tous nos messages.
Oui, j'y ai pas pensé là.
En proposant des émoticônes qui soient vides de sens. En fait.
Et noir, uni.
Oui, bah c'est noir et uni pour rappeler un trait de crayon. Bien sûr. Qu'en fait, ces formes proviennent directement de mes carnets de croquis.
Ok. Et le numéro 10 qui s'appelle Radio, alors bien sûr, moi qui m'interpelle.
Radio, c'est l'œuvre la plus ancienne qu'il y a dans l'exposition. Elle date de 2011. C'est une œuvre qui est composée de matériaux isolants, des plaques de faux plafond, un panneau sandwich polystyrène aluminium. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que ces matériaux isolants sont faits pour étouffer, sont faits pour absorber. Il y a aussi une bande de champ sur les côtés. Une bande de champ, c'est ce qu'on met quand on coupe un plan de travail dans une cuisine pour cacher la coupe qu'on a fait. C'est juste du plastique avec de la colle qui sert à masquer l'intérieur du panneau de particules. Donc, ce sont vraiment des matériaux très pauvres et qui sont faits non pas pour dire quelque chose, mais au contraire, pour masquer ou étouffer. Mmh. Et donc, avec leur assemblage...
À la radio, il faut étouffer les autres bruits. Je vous ai fait éteindre le ventilateur tout à l'heure parce que ça nous gênait. Ça aurait gêné nos auditeurs. Donc, il y a toujours... Moi, c'est ce qui me passionne chez les artistes, c'est qu'il y a toujours des lectures, des niveaux de lecture... multiples.
Très bien, oui, tout à fait.
Vous y réussissez très bien.
Je vous remercie.
Merci Samir. Et merci donc, beaucoup. Vous ne revenez pas à Nîmes, mais...
Je reviendrai à Nîmes s'il le faut, mais pour le moment...
Bon, eh bien, nos auditeurs...
On va laisser l'exposition vivre sa vie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alliance Plus.